On vit entouré de grandes idées abstraites. La vérité, la connaissance, la justice. On les utilise tous les jours, nos sociétés sont bâties dessus. Mais on s'arrête rarement pour se demander pourquoi celle-ci et pas d'autres.
D'où elles viennent, vraiment?
Exactement. Et surtout, à quoi est-ce qu'elles nous servent, concrètement?
C'est une question qui peut paraître simple, mais qui est au cœur de la philo depuis le début. Et c'est justement le point de départ d'un livre passionnant de Matthieu Queloz.
The Practical Origins of Ideas.
C'est ça. Genealogy as Conceptual Reverse Engineering. L'idée de base, c'est de prendre la philosophie traditionnelle et en quelque sorte de la retourner sur elle-même.
Oui, et c'est ce qu'on va explorer ensemble. On a donc ce livre, et notre mission, c'est de décortiquer un peu la méthode qu'il propose. Un nom un peu long d'ailleurs.
Un peu technique, oui.
La généalogie comme rétro-ingénierie conceptuelle. L'idée, si j'ai bien tout compris, c'est de comprendre la nature de nos concepts, non pas en cherchant leur essence pure, abstraite,
Non.
mais en enquêtant sur leurs origines pratiques, sur les besoins très concrets, très humains auxquels ils répondent.
C'est tout à fait ça. On ne demande plus seulement qu'est-ce que la justice, mais on pose une question avant, une question peut-être même plus fondamentale.
Qui serait?
Pourquoi des créatures comme nous ont-elles eu besoin, à un moment, d'inventer un concept comme celui de justice?
Alors, commençons par là. La philosophie, depuis Socrate, elle est obsédée par cette fameuse question « qu'est-ce que X ?»
Oui.
« Qu'est-ce que la beauté ?» Qu'est-ce que la connaissance? Le livre de Queloz suggère que cette approche, même si elle est essentielle, nous mène souvent dans une impasse.
On a l'impression de tourner en rond.
C'est ça. On cherche la définition parfaite qui résiste à tout sans jamais vraiment y arriver.
Oui, c'est un sentiment que beaucoup d'étudiants en philo connaissent très bien. On passe des heures à définir la connaissance comme une croyance vraie, justifiée. Et puis?
Et puis quelqu'un arrive avec un contre-exemple et tout s'écroule.
Voilà. Queloz ne dit pas que cette question est inutile, attention, mais il propose de la faire précéder par ce qu'il nomme la question pragmatique.
C'est-à-dire?
À quoi ça sert, en gros?
En quelque sorte, oui.
Plus précisément, pourquoi des créatures comme nous en sont-elles venues à développer l'idée de X? Autrement dit, si ce concept n'existait pas...
Quel problème on aurait?
Exactement. Pourquoi on aurait besoin de l'inventer? L'idée, c'est de passer de la quête de l'essence à la compréhension de la fonction. On déplace le regard du concept lui-même vers l'activité humaine dans laquelle il joue un rôle.
Donc, on ne jette pas Socrate par la fenêtre, mais on lui dit d'attendre un peu.
C'est une bonne image, oui.
Avant de définir la justice, on se demande pourquoi on a besoin de ce concept. Ça change. Ça change tout, en fait. Au lieu de regarder les idées comme des objets purs un peu platoniciens,
oui.
On les voit comme des outils. Des outils qu'on a forgés pour résoudre des problèmes.
C'est une excellente façon de le dire. Queloz utilise une analogie très très parlante. Il dit qu'étudier les idées en vase clos, c'est comme étudier un banc de poissons échoué sur la plage.
Ah oui, je vois.
On peut les disséquer, les mesurer, mais on passe à côté de l'essentiel. Leur dynamique, leur fonction dans leur environnement.
C'est comme faire de la biologie marine sans l'océan, en somme.
Précisément. Pour vraiment comprendre une idée, il faut la remettre dans son contexte d'action. Dans l'océan des besoins humains qui lui ont donné naissance. On ne peut pas juste regarder le concept, il faut regarder ce que les gens en font.
D'accord, donc si on doit regarder ce que les gens font d'un concept, comment on s'y prend? C'est une chose de le dire.
C'en est une autre de le faire, oui.
On n'a pas de machine à remonter le temps pour voir comment nos ancêtres ont inventé le concept de vérité. C'est là qu'intervient ce terme un peu intimidant de rétro-ingénierie conceptuelle, j'imagine.
C'est exactement là qu'il intervient. La rétro-ingénierie, c'est un processus qu'on connaît bien en technologie. On prend un objet fini, une machine, un logiciel, et on le démonte pièce par pièce pour comprendre comment il a été conçu et à quoi il sert. On part du produit final pour remonter à sa fonction.
Et si on applique ça au concept, ça donne quoi?
Ça veut dire qu'on part d'une pratique qui existe, par exemple le fait qu'on fasse la différence entre savoir et croire.
D'accord.
Et on essaie de remonter à la fonction que cette pratique remplit pour nous. On démonte le mécanisme pour voir à quel besoin ça répond. Pourquoi c'est si important pour nous de pouvoir dire « elle sait que le train part à 8 heures » plutôt que juste « elle croit que ».
Je vois. Et la partie généalogique alors?
Ça sonne très historique. On se met à fouiller dans les archives. C'est une excellente question, parce que c'est un point crucial. La dimension généalogique ajoute une narration, une histoire, mais ce n'est pas une histoire factuelle au sens de l'historien.
Ah, d'accord.
On ne cherche pas à savoir qui et quel jour a inventé le mot « justice ». La méthode utilise plutôt un récit, souvent fictif, stylisé, qui part d'un état de nature imaginaire.
Un état de nature, un peu comme chez Hobbes ou Rousseau?
Exactement. On imagine une communauté humaine primitive qui n'a pas encore le concept, et on essaye de montrer comment, à partir de besoins humains de base, de problèmes de coordination, ce concept a pu émerger.
C'est une sorte de modèle, en fait. Une reconstruction.
Préhensible dont cela a pu se passer. C'est ce que Wittgenstein appelait une représentation synoptique. Une manière de voir les connexions, quoi.
Donc le but n'est pas la vérité historique, mais la clarté philosophique.
Tout à fait.
Révéler la logique pratique qui se cache derrière nos idées.
C'est ça. Et cette méthode, elle sort pas de nulle part. Queloz l'inscrit dans une lignée philosophique très riche. On pense à Hume au XVIIIe siècle, à Nietzsche, bien sûr.
La généalogie de la morale, évidemment.
Et, plus près de nous, à des penseurs comme Bernard Williams, Edward Craig, Miranda Fricker, c'est une tradition qui a toujours cherché à ramener la philosophie sur Terre.
D'accord. La méthode est plus claire. Mais j'entends déjà les critiques. Si on ramène tout à un besoin pratique, est-ce qu'on finit pas par dire que la vérité, c'est juste ce qui est utile? Ça semble un peu réducteur.
C'est la critique classique. Et c'est justement là que l'approche de Queloz est très fine. Parce qu'il anticipe ça. Il montre que c'est pas si simple. Le premier grand bénéfice de la méthode, c'est qu'elle permet une explication sans réduction.
Elle évite ce piège.
Oui. Elle peut montrer par exemple comment une valeur qui nous semble intrinsèque, comme la valeur de la vérité pour elle-même, a pu naître de besoins purement instrumentaux, sans pour autant être réductible à ses besoins.
C'est-à-dire que c'est utile pour nous de penser que certaines choses ne sont pas seulement utiles?
C'est ça. C'est un peu paradoxal, mais c'est exactement ça. Le livre parle des raisons instrumentales de la désinstrumentalisation de notre pensée. On y reviendra avec un exemple. C'est beaucoup plus clair. Mais retenons ça. La généalogie ne dit pas que la vérité n'est que ce qui est utile. Elle explique comment on en est venu à la traiter comme ayant une valeur qui dépasse l'utilité.
D'accord. Premier point, on évite le réductionnisme. Quoi d'autre?
Deuxièmement, et ça c'est fondamental, la généalogie a une portée normative. Elle ne fait pas que décrire, elle nous aide à évaluer nos concepts.
Ah oui?
Elle peut être vindicative, c'est-à-dire qu'elle peut renforcer notre confiance dans un concept. Si on montre que la justice répond à des besoins humains universels de coopération, d'équité, alors la justice, ce n'est plus un idéal platonicien un peu mystérieux.
Ça devient un outil essentiel.
Un outil essentiel à la vie en société. Et ça nous donne d'excellentes raisons de la défendre.
C'est une manière de sauver nos concepts de l'abstraction pure, en quelque sorte, en leur donnant des racines pratiques. On les rend plus robustes, plus difficiles à rejeter, comme des simples idées en l'air.
Exactement. C'est la fonction vindicative. Mais attention, ça marche dans les deux sens. La généalogie peut aussi être subversive.
C'est-à-dire?
Si l'enquête révèle qu'un concept, disons, le concept d'honneur dans une culture très hiérarchique, sert en réalité à maintenir des structures de pouvoir qu'on ne cautionne plus...
Ou qu'il est né de préoccupations qui sont plus du tout les nôtres?
Voilà. Ben, cette prise de conscience peut nous inciter à le critiquer, à le modifier ou même à l'abandonner. Comprendre d'où vient une idée peut radicalement changer la valeur qu'on lui accorde.
Ce qui m'amène au troisième point, qui semble très actuel. Tout ce travail de diagnostic sur nos concepts, ça doit bien servir à quelque chose. On parle beaucoup aujourd'hui d'ingénierie conceptuelle.
Tout à fait. Et c'est le troisième bénéfice. La rétro-ingénierie est un préalable indispensable à une ingénierie conceptuelle réussie.
Et prudente.
Il faut savoir comment ça marche avant de vouloir le réparer.
C'est ça. Avant de vouloir améliorer un concept comme la démocratie, il faut d'abord comprendre précisément ce qu'il fait pour nous, quelles fonctions multiples il remplit, parfois sans qu'on s'en rende compte. Si on modifie un concept sans comprendre tout son mécanisme, on risque de casser quelque chose d'essentiel. D'accord, c'est très clair. Pour rendre ça encore plus concret, prenons un exemple. Je crois que le livre en développe plusieurs. Comment cette méthode éclaire une valeur comme la véracité? Le fait de dire la vérité, de la valoriser.
C'est un cas d'école parfait qui illustre magnifiquement ce que Queloz nomme la fonctionnalité auto-effaçante.
Fonctionnalité auto-effaçante.
C'est un concept fascinant et la narration généalogique est le meilleur moyen de le comprendre.
Alors allons-y, on part de notre état de nature imaginaire, j'imagine.
Oui, étape 1, on imagine une communauté où les gens se soucient de la vérité que de manière purement instrumentale. Je dis la vérité si ça m'arrange, je mens si ça m'arrange.
Il n'y a pas de valeur attachée à la vérité en elle-même.
Aucune.
Ça semble être une recette pour le chaos. Une société de menteurs opportunistes, on se retrouve très vite avec le fameux problème du passager clandestin, le freerider.
Vous mettez le doigt dessus. C'est l'étape 2. On réalise que cette situation est instable. Chacun a intérêt à ce que les autres disent la vérité pour pouvoir s'informer, coopérer.
Mais chacun est tenté de mentir pour son propre profit.
Exactement. Et si tout le monde raisonne comme ça, la confiance s'effondre. La société ne peut plus fonctionner. On ne peut plus se fier à personne.
C'est un dilemme classique. Telle est la solution que propose la généalogie.
La solution, et c'est l'étape 3, c'est de sortir de la logique purement instrumentale. La communauté doit développer une valeur intrinsèque de la véracité. Il faut que les gens soient éduqués à valoriser la vérité pour elles-mêmes.
Il faut qu'ils croient que mentir, c'est mal en soi.
C'est ça. Pas seulement à cause des conséquences. Il faut développer des motivations non instrumentales. L'honneur, le respect de soi, l'intégrité.
Attendez. Donc, si je suis bien, pour que le système soit utile et fonctionnel pour le groupe, il faut que les individus, eux, croient que la valeur de la vérité n'est pas seulement une question d'utilité.
C'est exactement ça le paradoxe. Et c'est là que tout se joue. C'est ça la fonctionnalité auto-effaçante.
D'accord.
La pratique de la véracité n'est fonctionnelle pour la société que parce que les individus, eux, ne la pratiquent pas pour des raisons purement fonctionnelles. La fonction de la véracité doit se cacher, s'effacer, derrière des motivations d'un autre ordre.
C'est fascinant.
Et la narration généalogique est parfaite pour révéler sa dynamique complexe, là où une simple analyse fonctionnelle verrait juste une contradiction.
Ça explique pourquoi les tentatives de tout réduire à un calcul d'intérêt sont si souvent insatisfaisantes. Elles manquent cette subtilité. Cette nécessité pour une fonction de se cacher derrière une valeur.
Oui.
Ce que propose le livre de Mathieu Queloz, au final, c'est donc une manière de faire de la philosophie qui ne se contente pas de définir nos idées, mais qui cherche à comprendre leur raison d'être, pratique, leur point, comme il le dit.
Oui, c'est une philosophie qui se veut humaniste, ancrée dans la réalité de nos besoins, et en dialogue constant avec l'histoire, la psychologie, les sciences sociales. Elle n'est pas dans sa tour d'ivoire.
Et pour revenir à notre point de départ, cette approche ne rend pas la question socratique « qu'est-ce que X ?» obsolète, mais elle la transforme.
Complètement. En fin de compte, l'approche pragmatique fonde et guide l'approche socratique. Avant de demander « qu'est-ce que la justice est ?», il est plus fondamental de se demander « pourquoi avons-nous, nous, besoin d'un concept de justice ?» La réponse à cette seconde question, elle ne donne pas la définition finale, mais elle éclaire et elle contraint la recherche. Elle nous donne des critères pour évaluer les théories de la justice. On peut se demander, est-ce que cette théorie est fidèle à la fonction que ce concept doit remplir pour nous ?
Une théorie de la justice qui ignorerait la coopération passerait à côté de l'essentiel, quoi.
Elle passerait à côté du point, même du concept, voilà.
Ce qui nous ramène à l'idée que nos concepts sont des outils, et des outils façonnés par les besoins d'une époque, par des contingences. Si nos besoins et notre environnement changent aussi radicalement qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, l'IA, la crise climatique, une question un peu vertigineuse se pose.
Laquelle ?
Lesquels de nos concepts les plus fondamentaux, ceux qui nous semblent éternels, sont en train de devenir obsolètes? Et lesquels, au contraire, nécessitent une réingénierie urgente pour nous permettre de survivre et de prospérer dans le monde de demain?